Bonjour, soyez la bienvenue. Le message qui va suivre vous est proposé par la Mission Mondiale d'Évangélisation, Jésus-Christ est la réponse. Nous croyons qu'en l'écoutant, vous serez équipé pour relever vos défis et encouragé à travailler à la réalisation de votre destinée. Ce message a été enregistré à la chapelle des Moissonneurs, annexe de la chapelle Rehoboth, église principale de la Mission JCR. Sans plus tarder, nous vous laissons à l'écoute du révérend M. Piebi Gaëtan. Révérend M. Piebi Gaëtan.
Romains 8, le verset 28. Nous savons du reste que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils soit le premier-né de beaucoup de frères. Ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés, et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Que dirons-nous donc à l'égard de toutes ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Lui qui n'a point épargné son propre Fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Qui les condamnera? Christ est mort. Et bien plus, il est ressuscité, il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Serais-je la tribulation ou l'angoisse ou la persécution ou la faim ou la nudité ou le péril ou l'épée? Selon qu'il est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous met à mort tous les jours et qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni les hauteurs, ni les profondeurs, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Sauveur. C'est un texte que j'affectionne énormément. Et je l'ai intitulé « Le texte des vainqueurs ». C'est le texte des vainqueurs. Mon thème est le suivant, la puissance de la mentalité dans le processus de la prospérité. La puissance de la mentalité dans le processus de la prospérité. Aujourd'hui, je vais parler du fait d'affectionner la culture du travail. Le fait d'affectionner la culture du travail, affectionner la culture du travail. Dieu aime le travail. Dieu aime le travail. Et c'est lui qui a instauré cette notion. Dans le livre d'Apocalypse, le chapitre 2, l'apôtre Jean déclare, et c'est Jésus qui parle au travers de sa bouche, il dit: je connais tes œuvres, ton travail et ta persévérance. Je sais que tu ne peux supporter les méchants, que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas, et que tu les as trouvés menteurs. Je connais tes œuvres, ton travail et ta persévérance. C'est un merveilleux texte qui doit nous interpeller. Nous découvrons que Dieu dit, je connais tes œuvres et je connais ton travail. Vous voyez, Dieu affectionne le travail. Il dit, je connais tes œuvres et je connais ton travail. Dieu affectionne le travail. Dieu aime le travail. Je connais tes œuvres et je connais ton travail. Ma question est celle-ci. Est-ce que Dieu connaît ton travail? Est-ce que Dieu connaît ton travail? C'est une question très importante. Dans 2 Thessaloniciens, le chapitre 3, le verset 8, l'apôtre Paul dit ceci. Nous n'avons mangé gratuitement le pain de personne. Nous n'avons mangé gratuitement le pain de personne. Mais dans le travail et dans la peine, nous avons été nuit et jour à l'œuvre pour être à la charge d'aucun d'entre vous. Nous n'avons mangé gratuitement le pain de personne. Mais dans le travail et dans la peine, nous avons été nuit et jour à l'œuvre pour ne pas être à la charge d'aucun d'entre vous. 2 Corinthiens, le chapitre 11, le verset 27, il déclare, c'est toujours Paul qui parle. J'ai été dans le travail et dans la peine, exposé à de nombreuses veilles, à la faim et à la soif, à des jeûnes multiples, au froid et à la nudité. Paul, lorsqu'il s'adressa à ses contemporains, les exhortait à travailler. Dans l'une de ses épîtres, il déclare que celui qui ne travaille pas ne mange pas. En d'autres termes, celui qui doit manger, c'est celui qui travaille. Et il dit que mes mains ont pourvu à mes besoins et à ceux qui étaient à ma charge. Et nous n'avons mangé gratuitement le pain de personne. Mais nous étions nuit et jour dans le travail, dans la peine, dans l'œuvre. Nous n'avons mangé gratuitement le pain de personne. Dieu affectionne le travail. Dieu aime le travail. Voilà pourquoi quand vous lisez votre Bible, vous allez découvrir que les personnes que Dieu a appelées à son service, il les a toujours trouvées en train de faire quelque chose. Pierre et les autres revenaient de la pêche. Ils ont pêché toute la nuit. Et Jésus les a trouvés dans leur activité. Il les a dit, suivez-moi, je ferai de vous des pêcheurs d'hommes. Il est dit que Matthieu est un collecteur d'impôts. Jésus l'a trouvé dans son bureau. Et Jésus l'a dit, suis-moi, je ferai de toi un pêcheur d'hommes. Luc, celui qui a écrit l'évangile de Luc et les actes des apôtres, était un médecin. C'était un médecin. Il soignait les gens. Jésus l'a appelé. Il a dit, je ferai de toi un pêcheur d'hommes. Paul était lui-même un rabbin. C'était un pharisien, un érudit de la Bible. Il était en plein dans le travail lorsque Dieu l'a appelé. La Bible parlant d'Élisée, la Bible dit, lorsque Élie a trouvé Élisée, Élisée est en train de labourer la terre et il tenait dans ses mains 12 paires de bœufs. Et ce n'est pas n'importe qui peut labourer la terre avec 12 paires de bœufs. 12 paires de bœufs qui tirent l'instrument qui sert à labourer la terre. Ce n'était pas n'importe qui. Donc Dieu n'aime pas les paresseux. Dieu aime les gens qui ont du muscle, qui ont de la volonté dans le travail. Dieu n'a jamais appelé des chômeurs. Et Dieu, quand il appelle une personne au ministère, ce n'est pas pour qu'il dorme. Parce que le ministère égale travail. Ministère égale travail, ministère égale activité. Dieu ne peut pas t'appeler et te laisser oisif. Et j'aimerais parler à tous ceux qui croient qu'ils ont une vocation. J'aimerais vous dire que le ministère ne consiste pas qu'à prêcher. Il y a d'autres paramètres qu'il faut connaître. Le ministère, c'est un monde de travail. C'est un monde de travail. Et la Bible dit, nous devons veiller à ceux qui vivent dans le désordre. Et lorsque l'apôtre Paul parle de ceux qui vivent dans le désordre, il fait allusion à ceux qui ne travaillent pas. Le fait de ne pas travailler, c'est du désordre. Parce que chaque être humain est né avec un potentiel qui lui permet de faire quelque chose dans la vie. C'est très important. C'est très important. Vous me direz, mais toi, Jésus t'a trouvé où? Lorsque Jésus m'a appelé en 87, je travaillais à l'usine de M. Edouard Mbadou en tant que menuisier. Lorsque j'ai quitté Mbadou, j'ai travaillé chez M. Pira. dans son usine. Et de là, Christ m'a appelé. Et lorsque Christ m'a appelé, je ne me souviens pas qu'un seul jour, j'ai connu l'oisivité. J'étais au travail. Et à cette époque, à Bethany, il n'y avait pas trop des hommes pratiques. Et je fus la première personne qui a introduit la notion du travail pratique. Et l'homme qui vous parle, c'est lui qui a conçu l'église de Bethany, l'édifice de Bethany avec ses propres mains, nuit et jour. On doit aimer le travail. On doit aimer le travail. Donc je vous exhorte à affectionner la culture du travail. La culture du travail. On doit l'aimer. La culture du travail est un élément important qui conduit à la prospérité. On ne naît pas prospère, mais on le devient. On ne naît pas prospère, mais on le devient. On est avec un potentiel. Mais potentiel ne veut pas dire prospérité. Avoir le potentiel, c'est une chose. Développer le potentiel, c'est une autre chose. Vous pouvez avoir un potentiel, mais si vous ne savez pas le développer. Vous pouvez avoir un talent, mais si vous ne travaillez pas le talent ne vous sert à rien. Le talent devient performant lorsqu'on le travaille. Et si vous n'aimez pas le travail, vous ne pourrez pas amener votre talent à maturité. Chaque être humain peut devenir prospère s'il le veut réellement. Personne ne peut vous empêcher de devenir prospère en dehors de vous-même. La prospérité est un processus qui commence dans l'esprit. Je vais dire au fait que la prospérité émane de notre capacité à nous développer dans notre mentalité. Si vous avez une mentalité ou si vous avez cultivé en vous la culture de la paresse, vous n'allez pas aimer le travail. Et lorsqu'on vous parle du travail, vous l'entendez dans notre oreille. Parce qu'en vous, il y a une autre mentalité. Et il vous faut travailler en vous-même. Nous ne pouvons pas être prospères si nous ne travaillons pas à l'acquisition d'une mentalité appropriée. Il faut que nous travaillions à cela. Dans Ésaïe 53, 11, il nous a révélé que c'est à cause du travail de son âme que Jésus a rassasié ses regards. Et au verset 10b, il nous a dit: et l'œuvre de l'Éternel prospérera entre ses mains. Il a travaillé son âme. Il a travaillé sa mentalité. Il a une hauteur d'esprit. Il est allé de progrès en progrès. Et à cause de ça, il a comblé ses regards. Et à cause de ce travail, Dieu a jugé bon qu'il était digne de gérer son œuvre. Voilà pourquoi la Bible dit: et l'œuvre de l'Éternel prospérera entre ses mains. Dieu ne peut pas donner un ministère à quelqu'un qui n'aime pas travailler. Dieu ne peut pas confier un ministère à quelqu'un qui n'aime pas le travail. Parce que Dieu n'est pas un fabricant de paresseux, c'est un fabricant de bosseurs. La culture du travail est un atout lorsqu'on est appelé. Dieu tient compte. Dieu tient compte. Vous savez pourquoi Dieu tient compte? Parce que Dieu n'échoue pas. Et Dieu n'aime pas l'échec. Et Dieu n'aime pas rater. C'est ce qui fait qu'il est Dieu. Parce qu'il n'a jamais échoué. Et Dieu tient toujours à réussir. Voilà pourquoi Dieu n'appelle pas les gens en tas. Vous savez, nous sommes tous appelés à naître de nouveau. Mais la Bible fait la différence entre le fait d'être appelé et le fait d'être élu. C'est deux choses. On est tous appelés à naître de nouveau, mais on n'est pas tous élus pour être ministre de Dieu. Et l'un des critères, c'est le travail. C'est le travail. Donc, avis à ceux qui veulent rentrer dans le ministère de la parole pour vivre sur le dos des gens. Ça marchera un jour. Ça marchera deux jours. Mais le troisième jour, tu seras au sol. Parce que les gens vont se rendre compte que tu les exploites. Et Paul qui a écrit la moitié du Nouveau Testament a dit, ses mains ont pourvu à nos besoins. Mais pourtant il était apôtre. Nous tous nous connaissons son histoire. Nous savons comment il se convertit. Comment Dieu l'a appelé. Mais cela ne l'a pas amené à dire, je ne veux pas faire quelque chose dans la vie. Il dit ses mains. Vous savez que Paul avait une société qui fabriquait les tentes. C'était un faiseur de tentes. Et il vendait ses tentes. Et il dit, ces mains-là ont pourvu à mes besoins et à ceux qui étaient à ma charge. Mais il était rempli du Saint-Esprit. C'est lui qui a parlé des dons spirituels. C'est lui. C'est lui qui a même parlé du combat spirituel dans Éphésiens. C'est lui qui nous a apporté la révélation de Christ. Ce gars l'a dit, les mains ont pourvu. Les mains ont pourvu. Et Dieu n'opère jamais un miracle dans le néant. Les apôtres avaient besoin d'un miracle financier pour payer l'impôt. Il les a dit, allez pêcher. Qu'est-ce que ça veut dire? Allez jeter les filets. C'est le travail. Tirer du poisson et payer l'impôt. Il n'a pas dit parler en langue. Suppliez le Seigneur nuit et jour. Pierre a dit, on va payer l'impôt. Comment? Jésus dit, la barque est là, il y a encore le filet. Est-ce que vous remarquez que malgré le fait que Dieu les a appelés, la barque, le filet était toujours là. Il les a dit, allez pêcher. Ils sont allés pêcher, ils ont tiré un poisson. Et avec ça, ils ont payé l'impôt. Le but de mon enseignement, c'est de vous ramener sur la terre. Vous ne pouvez pas presser Dieu si vous n'avez pas les deux orteils sur la terre. Dieu ne l'apprécie pas dans les airs, c'est sur la terre. C'est les réalités de la vie qui nous amènent à apprécier la bonté de Dieu. Ce n'est pas quand on est dans les nuages. Revenez sur la terre. Comprenez donc que la prospérité consiste d'abord à progresser dans notre façon de penser, de voir la vie. C'est ça la prospérité. Elle consiste d'abord à progresser dans notre manière de penser et de voir la vie. S'il n'y a pas une progression à ce niveau-là, c'est un problème pour vous. Vous savez, il y a des gens qui vont se retrouver là à 60 ans. Ils n'ont même pas un endroit pour dormir. Ils dépendront encore de papa et maman. Il y a des gens qui vont se retrouver, si vous ne faites pas attention, à 60 ans, en train toujours de dire, est-ce que tu as quelque chose pour moi, s'il te plaît? Est-ce que tu peux me trouver quelque chose? Est-ce que tu peux m'aider? On doit aimer le travail. Mais comment aimer le travail lorsqu'on n'a pas une mentalité appropriée? Comment aimer le travail lorsqu'on a la culture de la paresse? Lorsqu'on a la culture de l'oisivité? J'ai un principe dans ma vie. 24 heures ne doit pas finir sans que je ne sois capable de justifier ce que j'ai fait de mes 24 heures. Ça, c'est mon principe. Et si je fais quelque chose, est-ce que ce que j'ai eu à faire dans les 24 heures a pu contribuer à mon évolution et à mon épanouissement? Ça, c'est mon principe à moi. Et je le dis toujours à mon épouse. On doit être capable de justifier nos 24 heures. Qu'est-ce que nos 24 heures ont apporté à notre vie? Parce que si nos 24 heures n'ont rien apporté à notre vie, sache que ça n'a rien apporté aussi à nos enfants. Et c'est très important. Alors, notez mon premier point. Pour pouvoir prospérer, nous devons connaître l'ordre de priorité. Pour pouvoir prospérer, ou si nous voulons C'est mon premier point. Si nous voulons prospérer, nous devons connaître l'ordre des priorités. Pour prospérer, nous devons connaître l'ordre des priorités. Le processus de la prospérité ne consiste pas d'abord à poursuivre l'argent ou des biens matériels, mais plutôt à travailler sur soi-même. Ne renversez pas l'ordre des choses. Il y a des gens qui poursuivent l'argent, mais avec une mauvaise mentalité. Et quand vous avez la mauvaise mentalité, l'argent ne vous servira à rien. Mais si vous avez la bonne mentalité, la bonne hauteur d'esprit, vous pouvez posséder l'argent. Je ne dis pas que vous pouvez poursuivre l'argent, c'est différent. C'est différent. Donc le processus de la prospérité ne consiste pas d'abord à poursuivre l'argent ou des biens matériels, mais plutôt à travailler sur vous-même. Je vais ouvrir une parenthèse en disant le mariage, c'est pas la garantie sociale. Et là, je m'adresse aux femmes. Parce que dans la culture africaine, on n'encourage pas la femme à s'instruire, à se développer sur le prétexte que le mariage, c'est sa garantie. Et c'est une mauvaise culture, mais qu'on n'a jamais rectifiée. Et aujourd'hui, vous avez des jeunes filles qui ont tout pour réussir, mais qui sont convaincues que leur réussite ne dépend que du mariage. Même si je n'apprends pas, même si je ne fais rien dans la vie, Dieu me permettra d'épouser quelqu'un. Mais ça ne marche plus aujourd'hui. Parce que les hommes d'aujourd'hui ne veulent plus des femmes qui ne font rien dans la vie. Aujourd'hui, quand un homme t'approche, la première question c'est: qu'est-ce que tu fais dans la vie? Si tu peux le démontrer, ce que tu fais dans la vie, à partir de ce moment, il se positionne. Et les hommes, on ne choisit pas les femmes à pognon pour se marier avec elles. La culture de Mario doit être brisée. Quelqu'un a chanté Mario. Mario, c'est quelqu'un qui vivait aux dépens d'une femme. Les Mario en Christ, on n'en veut pas. Et je ne marierai jamais un Mario en Christ. Si tu ne me démontres pas que tu travailles, je ne peux pas te marier. Il n'y a pas de Mario en Christ. C'est très important. Le processus de la prospérité ne consiste pas d'abord à poursuivre l'argent, mes amis, ni les biens matériels. Changez l'orientation des choses dans votre tête. Mais travaillez d'abord en vous-même. Pourquoi vous devez travailler en vous-même? La réponse est simple. Vous êtes la clé de votre réussite. Vous êtes la clé de votre réussite. Vous êtes la seule personne capable de transformer votre existence. Vous devez votre réussite, tout comme vos échecs, à vous-même. Votre clé, c'est vous et non les autres. Votre clé, c'est vous et non les autres. La clé de ta réussite, ce n'est pas moi, c'est toi-même. Un jour, moi, je partirai. Et toi, tu resteras. Un jour, on peut être amené à nous séparer. Et Dieu peut m'amener dans une autre nation. Et toi, tu resteras. Et là, tu comprendras que si tu n'as pas fait un travail dans ta vie, que je ne suis pas celui qui est à l'origine de ton malheur, mais ton propre malheur, c'est toi-même. La clé de la réussite de ta vie, c'est même pas ton père et ta mère. Ni ta femme, ni ton mari. Et ton équilibre moral ne dépend pas de ton mari ou de ta femme, mais d'abord de toi-même. C'est ce qui explique que quand on se marie avec une mauvaise vision, lorsque l'un perd le travail, le mariage est fini. Parce que c'est la culture de l'intérêt. On se marie pour l'intérêt. On ne se marie plus pour ce que l'autre est. Mais on se marie pour ce que l'autre a. Et c'est un danger. Vous êtes la clé de votre bonheur comme de votre malheur. Par conséquent, travaillez à avoir de la volonté. Travaillez à avoir de la volonté. Travaillez à développer le courage en vous. Travaillez à susciter en vous de la détermination et de la persévérance. Travaillez à vous débarrasser complètement de la paresse. Travaillez à cela. Travaillez. Ça, c'est le véritable prix à payer. Parce que quand tu habitues ton corps à dormir et que Dieu te dit maintenant il faut te lever pour faire quelque chose, le corps va te dire pardon, restons là. Pardon. Tu verras comment ton propre corps va te gronder en te disant je ne t'avais rien demandé, pardon. Douzième temps que tu m'échauffes comme ça. Et la paresse, je vous assure, c'est quelque chose de terrible. J'ai dit, premièrement, pour prospérer, nous devons connaître l'ordre des priorités. La priorité, ce n'est pas courir après l'argent. Moi, je l'ai fait. Et je vous le dis honnêtement. Mais j'aimerais vous dire que ça essouffle. Ça épuise l'énergie. Et ça vous rend nerveux. Parce qu'en fait, vous violez l'ordre des choses. Mais si vous apprenez à vous développer, si vous apprenez à changer votre mentalité, ce que vous étiez en train de poursuivre, malgré vous, vous allez maintenant le faire de manière naturelle. Le problème, c'est qu'il y a des fautes qui restent dans votre tête. Et je vais vous aider. Donc, retenez ce premier point. Le deuxième point. Sortez de la culture de la facilité. Sortez de la culture de la facilité. La facilité ne nous rend pas meilleurs. La facilité ne nous rend pas meilleurs. Ou ne vous rend pas meilleurs. Mais vous maintient dans la dépendance. La culture de la facilité a rendu des hommes et des femmes de valeur à des personnes méprisables. La culture de la facilité a rendu des hommes et des femmes de valeur à des personnes méprisables. La facilité tue la personnalité, vous expose à l'ignominie et aux calomnies. La culture de la facilité vous introduit dans le compromis et la corruption. Le crime, le vol, l'agressivité, la prostitution sous toutes ses formes ont été développés par la culture de la facilité. Ça a été développé par la culture de la facilité. La facilité ne nous permet pas de nous réaliser dans la vie, mais elle détient sur nous le pouvoir de vie ou de mort. Voilà pourquoi, quand on aime la facilité, on vole. Et le jour qu'on t'attrape, tu peux mourir. Mais qu'est-ce qui t'a tué? C'est la facilité. Tu n'as pas voulu travailler, tu as voulu prendre le chemin facile. Et beaucoup qui se prostituent aujourd'hui, c'est à cause de la facilité. C'est à cause de la facilité. C'est à cause de la facilité. Et je parle de la prostitution sous toutes ses formes. Quand je parle de la prostitution, ne voyez pas toujours cette femme qui expose aujourd'hui son corps pour de l'argent. Mais j'aimerais vous dire que même au Gabon, les hommes deviennent homosexuels pour l'argent. Ça veut dire, je préfère aujourd'hui commettre l'abomination, la sodomie pour 10 000 francs. Pour 5 000 francs. Et je perds toute ma personnalité, ma dignité. pour 10 000 francs. Et même si c'est pour 1 million. Et même si c'est pour des milliards. Quelqu'un a dit, ça paye aujourd'hui l'homosexualité. Ça paye aujourd'hui. D'autres deviennent lesbiennes. Lesbiennes. Pour la facilité. Pour la facilité. La facilité, c'est quelque chose de très dangereux. En tant que chrétien, nous ne devons pas aimer le chemin de la facilité. Nous devons refuser cela. On doit refuser le chemin de la facilité. On doit refuser. Dans Luc 13, 24, Jésus nous exhorte à rentrer par la porte étroite. Car l'âge, dit-il, est la porte spacieuse. C'est le chemin qui mène à la perdition. Il y a beaucoup qui entrent par là. L'âge est la porte spacieuse. Le chemin qui mène à la perdition. Mais c'est quel chemin? C'est la facilité. Voilà pourquoi je veux insister. La facilité vous rend méprisable. La facilité amène les gens à vous critiquer, à vous calomnier, à vous salir. La facilité vous introduit dans le compromis. La facilité tue la personnalité. On ne doit pas aimer la facilité. Je vous ai dit et je le redis pour vous et pour ceux qui m'écoutent. Chaque bénédiction a un prix à payer. Et la bénédiction, il faut l'obtenir dans des voies légales pour ne pas avoir des problèmes de conscience. Du 17 au 19 février 1982, le pape nous a rendu visite. À cette époque, je n'étais pas converti. Je me souviens que j'étais au stade, dans les gradins, appelés couramment le Shabbat. C'était un événement. Toute la population s'est rendue au stade. Parce que le pape Jean-Paul II foulait le sol gabonais pour la première fois. Et je me souviens encore de cette image lorsqu'il a baisé le sol gabonais. Les gens disent que c'était quelque chose de très puissant. Je n'étais pas encore chrétien. Et il s'est tenu sur la chaire au stade au Minisport, président Bongo à l'époque, aujourd'hui Ondimba. Il a déclaré, j'exhorte l'église de Christ au Gabon à aimer l'évangile du travail. En 1982, j'exhorte l'église de Christ au Gabon à aimer, écoutez bien, pas l'évangile, mais l'évangile du travail. Il a ajouté, le travail, c'est ce qui permet à l'homme de se réaliser. Dans la vie. Il continue son propos en disant, le travail, c'est ce qui fait l'homme. Vous voyez? Le travail, c'est ce qui permet à l'homme de se réaliser dans la vie. Mais le travail, c'est ce qui fait l'homme. Donc si tu ne travailles pas, tu ne peux pas être ce que tu dois être. Le travail, c'est ce qui fait l'homme. Il dit encore que le travail est la clé de l'église de Christ au Gabon. Et partant de toute la nation. C'est la clé de l'église de Christ au Gabon. Et c'est la clé de toute la nation. Je me souviens encore de ce qu'il a eu à dire. Il dit, les grandes nations doivent leur prospérité au travail de leur peuple. Pour finir, il s'est écrié, « Oh, église du Gabon !» Lève-toi et marche. Pourquoi? Pour le travail. De 1982 à 2005, il s'est écoulé 23 ans. Et pendant 23 ans, l'Église n'a pas encore saisi la portée de cette puissante vérité. 23 ans, l'Église n'a pas encore compris ça. Je n'étais pas encore converti. Que cet homme est venu libérer la clé qui devait donner à l'église de Christ au Gabon la dignité. Les autorités ne vont jamais nous respecter s'ils ne voient pas le fruit que nous dégageons. Et cet homme nous a apporté la clé. Mais on n'a rien compris. Nous sommes passés à côté. Nous avons prêché l'évangile. Mais on n'a pas prêché l'évangile du travail. Et comme on a prêché un autre évangile, le fruit, c'est ce que nous gérons aujourd'hui dans nos églises. Au lieu de faire des hommes, nous avons fait des gens éternellement assistés. C'est ce que nous gérons aujourd'hui. Et la nation gabonaise elle-même aussi n'a pas compris. Ça n'a même pas interpellé les politiques, ni les opérateurs économiques. On est resté dans la même mentalité. Et aujourd'hui, malgré le fait qu'on crie le plein emploi, le Gabonais n'a pas en lui la culture du travail. Mais il a la culture de la facilité. Ni l'église, ni la politique, ni les opérateurs économiques, ni la cellule familiale n'a saisi ce message. Et aujourd'hui, nous sommes toujours au point de départ. 23 ans sont passés. On n'a pas saisi la portée de ce message. Et aujourd'hui, nous cherchons les voies et moyens pour essayer d'améliorer la condition de vie des Gabonais. Mais la condition de vie des Gabonais, ils ne vont l'obtenir qu'au prix du travail. Avant de demander à ton pays de te faire quelque chose, demande-toi ce que tu dois d'abord faire pour ton pays. Et si tu es capable de faire quelque chose pour ton pays, tu auras assez de force de revendiquer. Parce que si tu fais quelque chose pour ton pays, tu seras reconnu. Et quand tu te tiendras, on dira, on doit lui donner ce qu'il demande. Parce qu'il a produit. Cet homme, cette femme, a contribué au développement du pays. Et c'est un concept qu'on doit enseigner à l'école. C'est un concept qui doit être prêché dans l'église. C'est un concept que les hommes politiques doivent tenir dans leur discours. C'est un concept qu'on doit inculquer depuis le village. C'est un concept que même les chefs du village, lorsqu'ils sont au corps de garde, doivent inculquer aux enfants. C'est un concept que la maman qui tient l'enfant à la mamelle doit déjà l'inculquer. Avant de demander ce que ton pays doit faire pour toi, tu dois d'abord te poser la question, qu'est-ce que moi je fais pour mon pays? Ou bien, qu'est-ce que je peux faire pour mon pays? Il faut qu'on arrive là. Il faut qu'on en arrive là. Il le faut. Et il le faut. La facilité, chassons ça de notre mentalité. Chassons ça de notre mentalité. N'aimons pas ça, c'est pas bon. Et il y a des gens ici, quand vous allez même chez vos parents, on vous regarde avec le mépris. Il y a même des aînés qui ont perdu leur dignité à cause de la facilité. Qui ont perdu leur droit de naître à cause de la facilité. Il y a une image qui a percé mon âme un jour. On était trois serviteurs de Dieu dans le bureau d'un autre serviteur de Dieu. Ce serviteur de Dieu avait plus de moyens que nous. Et j'étais là avec les trois autres, on était quatre. Et parmi les trois, un a demandé de l'argent. Celui qui était assis correctement sur son bureau a dit, je n'ai rien. Ensuite, il a mis la main dans sa poche. Il a balancé un billet sur la table. Et les deux autres serviteurs qui étaient à mes côtés, je les ai vus se battre pour prendre 10 000. Je les ai vus se battre et j'ai regardé celui qui avait balancé le billet. Il s'est adossé correctement sur son fauteuil. J'ai dit, Seigneur, ça, c'est pas pour Gaëtan. Je ne perdrai pas ma dignité pour ça. Mais quand vous aimez la facilité, vous ne discernez pas. Et à partir de là, j'ai tiré une leçon. J'ai dit, jamais. Jamais. Ça, jamais.
Mais la facilité nous rend méprisables. La facilité nous rend méprisables. Et des fois, nous sommes aigris. Mais nous devons nos blessures intérieures à nous-mêmes. Ne dites pas les gens sont mauvais. Parce que l'image que vous transmettez aux gens, c'est ce qui leur permet de se positionner vis-à-vis de vous. Si vous avez transmis une mauvaise image, mais pourquoi vous voulez que les gens vous considèrent? On ne peut pas vous considérer. On ne peut pas. On ne peut pas. L'image que vous dégagez conditionne la manière dont les gens vont s'éteindre devant vous. Donc vous devez comprendre que tout ça, c'est vous-même. C'est vous-même. C'est vous-même. Et ce que je vous dis, c'est à tous les niveaux, à tous les niveaux. Du planton jusqu'au ministre. Parce que ce n'est pas le titre qui donne à l'homme la valeur. C'est l'homme qui donne la valeur à sa personne. Et la valeur de sa personne donne la valeur à son titre. Prenez le titre de ministre. Donnez-le à une personne qui a une hauteur d'esprit. On va le respecter. Prenez le même titre. Collez ça à celui qui aime la facilité, qui a une mentalité broyée. Vous allez voir qu'on va le mépriser. Ce n'est pas le titre qui amène le respect. C'est la personnalité qui engendre le respect. Donc il y a une hauteur d'esprit. Et en tant que serviteur de Dieu, c'est valable. C'est valable. Je vous assure, commencer à me mépriser, il faut vraiment t'élever le matin. Je ne sais pas comment ça va commencer. Vraiment, je ne sais pas comment ça va commencer. Et tout ce que j'ai vécu dans la vie, ça m'a appris la sagesse. Et j'ai compris beaucoup de choses. J'ai compris beaucoup de choses. 3. Développez en vous la culture du travail. Parlez à votre âme. Dites-lui, affectionne le travail. Dites-lui que le travail est nécessaire à votre épanouissement. Parlez à votre âme. Voici les vérités qui doivent attirer votre attention. Aller au travail ne veut pas forcément dire que nous aimons le travail. Aller au travail ne veut pas forcément dire que vous aimez le travail. On peut aller uniquement à cause du salaire. Et à partir de ce moment, nous ne sommes pas rentables à la société et à la nation. Tu peux avoir une activité professionnelle. Aller chaque jour au travail. Mais ça ne veut pas dire que tu aimes le travail. Ce qui te conditionne, c'est le salaire que tu veux. Et je vais te le démontrer. Lorsque tu arrives au travail, tu fais combien de temps à ton poste de travail? Est-ce que tu peux démontrer que de 8 heures ou de 7 heures jusqu'à midi, tu as été productif et que ce que tu as produit est utile à la société et à la nation? Donc on peut travailler, mais sans aimer le travail, mais aimer le salaire qui sort de là. Et à partir de ce moment, on n'est pas utile à la société et on n'est pas utile à la nation. On ne donne pas le meilleur de nous-mêmes. C'est un signe de paresse. C'est une mentalité médiocre qu'on a. Donc, tous ceux qui travaillent, ne vous glorifiez pas en disant je travaille. Ce n'est pas un atout. Est-ce que vous aimez votre travail? Est-ce que vous avez cultivé en vous la culture du travail? Est-ce que quand tu vas au bureau, c'est pour travailler? On met pour allumer l'ordinateur et jouer au jeu de cartes. Et puis, la fin du mois, tu prends le salaire. Ou lire la Bible au travail. Ou aller retrouver l'autre et parler. Il y a d'autres qui viennent seulement pointer. Juste pointer, on les a vus. Mais vous savez, la foi fouille là. Qui est la fonction publique. Si on ne fait pas un travail, le pays ne va pas aller. Et la fonction publique, on est toujours malade. Il y a toujours un parent mort. Même s'il n'est pas mort. Et vous vous étonnez qu'il y a des morts. C'est vous qui provoquez les morts. Si le travail est pénible pour vous,
je vous exhorte à faire un travail en vous-même et à demander à Dieu de vous aider.
Aimez le travail.
Aimer le travail, c'est tout d'abord aimer ce que nous sommes et ce que nous faisons.
Aimer le travail,
c'est tout d'abord aimer ce que nous sommes. Et ensuite, ce que nous faisons.
Le travail,
c'est la plateforme qui révèle au monde le don que vous êtes.
Le travail,
c'est une expression divine.
Le travail vient de Dieu
et Dieu aime le travail. D'Hébreux 6, le verset 10, il dit, Dieu n'est pas injuste pour oublier votre travail.
Dieu aime le travail. Le travail, c'est la sphère où vous exprimez votre créativité. C'est la sphère où vous exprimez votre créativité. Si vous détestez votre lieu de travail ou votre travail, vous détestez au fait ce que vous êtes et vous annulez ce que vous pouvez devenir demain.
Quand votre vision intérieure du travail s'ouvrira, votre horizon va s'élargir. Si vous comprenez le véritable sens du travail et ce que le travail apporte,
vous devez comprendre que lorsque vous détestez votre emploi, vous détestez tout simplement votre pouvoir de vous exprimer et de vous révéler. C'est tout. Votre pouvoir de vous exprimer, de vous révéler, c'est votre travail. Mais si vous détestez le travail,
vous détestez cette possibilité-là. Et vous ne serez jamais connu. Les hommes de renom, c'est le travail qui les a révélés.
Vous allez remarquer qu'ils sont tous performants dans un domaine. Et quand on parle d'eux, leur histoire est attachée
dans le fait d'avoir réalisé quelque chose, d'avoir fait quelque chose.
Donc si tu détestes le travail, au fait, tu détruis ce pouvoir que Dieu t'a donné de te révéler et de t'exprimer.
Aimez le travail. Aimez le travail.
Quatrièmement, je vais vous montrer le secret de l'abondance. Le travail tient en lui le secret de l'abondance et de la prospérité. Le travail, c'est un facteur de développement. C'est prouvé. C'est un facteur de développement. Le travail, c'est ce qui fait la grandeur d'une église, d'une entreprise, d'une famille et d'une nation. Le travail, c'est ce qui fait la grandeur d'une église, d'une entreprise, d'une famille et d'une nation. Une église qui n'a pas de bosseurs ne peut pas être grande. Une église où il n'y a que les paresseux, on ne peut pas arriver à atteindre l'objectif qu'on s'est fixé. Et ce qui fait la grandeur d'une église, c'est le travail. Le roi Salomon nous donne une clé importante dans Proverbes 14, verset 4, lorsqu'il déclare, s'il n'y a pas de bœuf dans la crèche est vide. C'est à la vigueur de bœuf que l'on doit l'abondance des revenus. Je vais vous traduire ce verset de manière suivante. Quand il n'y a pas d'hommes et de femmes de travail, l'église, la famille, les entreprises, la nation sont vides, c'est-à-dire stériles. Il n'y a rien. À partir de ce moment, l'église, la famille, l'entreprise ou la nation ne produit pas. Et si on ne produit pas, mes amis, on ne peut pas se positionner sur la scène internationale. Vous savez qu'aujourd'hui, on est rentré dans l'ère de la compétition. Et pour te maintenir dans la scène internationale, il faut que ton pays produise. Mais si ton pays n'est fait que de gens qui ont la mentalité broyée, des gens qui ne bossent pas. J'ai écouté le président dire, écoutez, ça va vous choquer. Je l'ai écouté dire hier à la télé, je l'ai écouté parler. Il a dit, le Gabon dépense près de 9 milliards pour importer le poulet au Cameroun qui est là à côté. Importer. 9 milliards, là, à côté, juste là. 9 milliards que nous dépensons par an pour nourrir l'estomac des Gabonais. Ici, si on ne peut pas produire du poulet. Est-ce qu'ici, il n'y a pas un Gabonais? N'accusez pas toujours l'État. Dès que vous parlez, ça va dire oh, l'État, on va dire oh, le gouvernement, on va dire derrière ta maison, si tu commences à faire quelque chose, qui va te bloquer? Mais c'est qui l'État? Et qui fait l'État? Et qui fait l'État? Je vous assure que si dans ce pays, il n'y avait pas de référence, je devais croire que le gouvernement ne favorise pas les gens. Mais moi, je ne crois plus à ça. Parce que je connais un homme aujourd'hui qui a démontré que par l'agriculture, il peut vivre. Il est en train d'approvisionner actuellement nos supermarchés par ce qu'il fait. Et il m'a dit un jour, je me bats pour lutter contre l'autosuffisance alimentaire. Il me dit, papa, tout vient du Cameroun. Les tomates, les oignons, les carottes, tout ce que nous consommons sur le Cameroun qui nous donne. Écoutez bien, 9 milliards. 9 milliards. On ne parle pas de millions. C'est pour vous démontrer combien de fois l'estomac demande des moyens. Et entendez les Gabonais dans le pays, ça ne va pas. Personne ne veut même faire quelque chose. Et ce qui est encore de terrible, c'est que même l'Église qui doit être l'espoir, quand vous parlez du travail, les gens fouillent l'Église. Vous parlez de prospérité dans la mentalité, les gens fouillent l'Église. Vous dites, levons-nous, faisons quelque chose, les gens fouillent l'Église. Dès que vous revenez, vous dites, séminaire, thème, les démons et ses œuvres, l'Église est pleine. On vous a dit que c'est quand on a chassé le démon que la tomate va sortir de la terre. Dès qu'on a chassé le démon, le poulet lui-même va se reproduire, il va se déplumer, puis il va aller sur le supermarché. Comme c'est les démons qui nous bloquent tout ça, dès qu'on les chasse, tout sort. Vous croyez qu'aux États-Unis, il n'y a pas de démons? Vous croyez qu'aux États-Unis, il n'y a pas de démons? Vous croyez qu'au Cameroun, là, ceux qui nous prennent 9 milliards rien que pour le poulet, ils n'ont pas de démons? C'est la culture, c'est tout, de la facilité. C'est la culture. C'est tout. C'est la culture. Et je vous dis, je vous parle, je suis un prophète, je vous parle de la part de Dieu. Si vous ne faites pas attention, si le Gabon ne fait pas attention, Dieu permettra que nos genoux touchent le sol. Et que par la souffrance, nous apprenons à nous débrouiller. Parce que Dieu n'affectionne pas la paresse. Dieu ne l'affectionne pas. Dieu ne l'affectionne pas. Et j'aimerais vous dire, la plus grande richesse que Dieu a d'abord donnée à la terre, ce n'est pas la matière première, c'est la terre. La puissance des Juifs, c'est d'abord le sol. Le peuple que lui-même a suscité, il a dit, tu cultiveras, tu travailleras la terre. Et la terre te donnera le meilleur. Donc c'est d'abord la terre. Deuxièmement, la Bible dit que l'on doit l'abondance des revenus à la vigueur de bœuf. En d'autres termes, l'abondance provient de notre capacité de travailler. Si nous ne sommes pas des hommes vigoureux à la tâche, nous ne pouvons pas espérer l'abondance. Le secret de l'abondance se trouve dans la vigueur, dans la force du travail et non dans la mentalité de la facilité. La culture de la facilité, nous devons la détruire dans nos vies, dans l'Église et dans la nation tout entière. De la même manière qu'on se bat pour lutter contre le sida, j'aimerais dire au Gabonais qu'il y a un autre. Il y a un autre sida, plus puissant que le sida, c'est la facilité. Et si vous arrivez à détruire ça, vous allez voir que le sida va ralentir sa course. C'est un syndrome trop fort, la facilité. Détruisez ça, vous allez voir que le sida, parce que si vous amenez les gens à travailler, ils n'auront plus le temps de penser à l'oisivité. L'oisivité amène au rapport sexuel. La Bible dit, la main d'Israël est en guerre. Mais la Bible a dit, n'est pas en guerre. Il est resté sur le toit. Et pendant qu'il était sur le toit, à ne rien faire, il a aperçu la femme du riz. Bathsheba. Et quand il a vu la femme du riz, il a demandé qu'elle vienne sous son toit. Il est sorti avec elle. Parce que David, à cette période, était dans l'oisivité. Et l'oisivité amène dans la débauche. Parce que la pensée est faite pour être concentrée sur quelque chose. Quand vous n'arrivez pas à mener votre pensée à se concentrer sur quelque chose, les pensées se baladent. Et quand les pensées se baladent, elles vont vous amener à capter quelque chose qui ne doit pas être captable. Et la chose que vous allez capter va détruire votre vie. Attention à l'oisivité, à la vie facile. Faites quelque chose. Concentrez-vous sur quelque chose. Chaque jour que Dieu fait, ta pensée doit être orientée vers un but. Tu dois poursuivre quelque chose. Mais étudiez votre Bible, ça a mené David à où? À tuer son mari parce que la femme est tombée enceinte. Et quand la femme est tombée enceinte, il a dit, demandez à Uri de rentrer. Et il a enivré le pauvre gars de vin. Pour qu'on puisse dire que c'est quand il est revenu et qu'il a bu, qu'il est parti avec sa femme et que la femme est tombée enceinte. Mais le pauvre gars avait tellement la pensée concentrée sur le combat que le vin n'a pas fait effet sur lui. Et au lieu d'aller dormir avec sa femme, il a dormi devant la porte de sa demeure. Parce que son cœur et ses pensées étaient au combat. Ce n'était pas dans le plaisir de la chair. Et ce n'était pas pour le temps de boire le vin. Je répète, si vous ne comprenez pas les temps et les saisons de Dieu, vous allez faire des bêtises. Voilà pourquoi Élisée va demander à Géasi, est-ce le temps de prendre de l'argent et des richesses? Lorsqu'il a refusé les richesses de Naaman. Élisée était concentré sur quelque chose. Et Géasi, puisque son cœur était dans les richesses, il cherchait, il a pris. Or, il ne savait pas que les richesses de Naaman là étaient collées à sa lèpre. Et le prophète va lui dire, la lèpre de Naaman. Voyez bien, la lèpre n'est pas restée dans le fleuve. Hein. La lèpre était collée sur la richesse. Il a dit, voilà, la lèpre de Naaman va se attacher à ta vie. Et Géasi regarde comme ça, après avoir pris les richesses, mais qui n'étaient pas de bonnes richesses, il s'est retrouvé en train d'hériter quelque chose qu'il ne devait pas hériter. Et quand vous aimez l'argent facile, au travers de l'argent, on va vous donner un transfert d'esprit qui va gaspiller votre vie. Parce que dans l'argent facile, on transmet quelque chose. La personne, quand elle te donne, elle veut se débarrasser sûrement de quelque chose, elle dit, prends. Mais comment te transférer ça? Il va utiliser l'argent pour te transférer ça. Et des fois, vous vous retrouvez en train de manifester les mêmes symptômes que le gars. Dit transfert d'esprit. Ça, vous devez dire amen, puisque vous aimez les esprits. Ça, vous devez dire amen, vous devez même acclamer. Vous n'acclamez plus. On parle de transfert d'esprit. Il n'y a pas d'acclamation. C'est la première fois que je vois les gens n'acclament plus quand on parle de transfert d'esprit. Parce que là, l'esprit, là, c'est pas bon. Mais faites attention, mes amis, faites attention. La facilité, ce n'est pas bon. Élisée l'a dit, voilà, la lèpre de Naaman va se coller à toi. Ce n'était pas le temps. Le gars est venu. Dieu m'a dit, ne prends pas. Toi, tu estimes qu'il faut prendre. Voilà, maintenant, la lèpre se colle à toi. Et Élisée va mourir sans successeur. Parce que tout simplement, Géasi n'avait pas la même mentalité que lui. Et quand Élisée meurt, il meurt avec son onction. Vous connaissez l'histoire de sa vie. Et un jour, pendant qu'on allait enterrer quelqu'un, les armées sont rentrées dans la ville. Ils ont pris le cadavre, ils l'ont jeté sur les eaux d'Élisée. Et le cadavre est revenu à la vie. Pourquoi? Parce que Élisée n'avait pas de successeur. Le manteau, on ne l'emporte pas avec soi dans la tombe. On le dépose quelque part. Le manteau est fait pour être transféré. Élie a donné à Élisée. Élisée devait donner à Géasi. Mais Géasi n'a pas compris. Géasi était focalisé sur autre chose. Et c'est comme ça que deux fois, Dieu nous met à côté des leaders. Dieu te met à côté de quelqu'un, juste pour te transférer quelque chose. Mais puisque tes pensées sont ailleurs, vous n'êtes pas sur la même longueur, donc tu es disqualifié. Parce que pour prendre certaines choses, il faut être concentré. Il faut comprendre. Et il faut suivre. Voilà pourquoi je vous dis, il y a des choses, vous n'avez pas besoin de parler en langue, ni de jeûner. Pourquoi vous devez souffrir pour des choses que Dieu lui-même a dit, ça se transmet juste comme ça. C'est bête? C'est bête? Et dans votre vie, vous devez savoir exactement où vous vous situez. C'est très important. Si vous voulez avancer avec Dieu, vous devez savoir où vous vous situez. Parce que si vous ne savez pas où vous vous situez, vous allez vous donner à n'importe quoi. Et n'importe quoi là, n'importe quoi ne produit que n'importe quoi. N'importe quoi ne produit pas ce qui est excellent. N'importe quoi produit n'importe quoi. Et quand n'importe quoi produit, ça gaspille la vie. Est-ce que vous savez où vous vous situez? Vous êtes où? Vous êtes où? Là, actuellement, vous êtes où? Aime le travail! Et j'ai compris que mon succès, je le dois à moi-même. Il faut que je travaille. Tout ce qui peut se produire dans ma vie, ce n'est pas ça le problème. Mais c'est comment moi je vois les choses. Alors il faut que je me développe, il faut que je m'élève. Il faut que je fasse quelque chose. Aimez le travail. Apprenez à travailler de vos mains. Apprenez à travailler de vos mains. Dans le psaume 128, le verset 2, David déclare, « Alors tu jouiras du travail et tu seras heureux lorsque tu prospéreras. » Tu seras heureux. Quand tu vas travailler de tes mains et que la prospérité va sortir, tu ne seras pas heureux. Tu ne seras pas content. Proverbe 14, 23 dit, tout travail procure quoi? L'abondance. Le travail, c'est important. Le travail bien fait attire sur nous la faveur, la dignité, le respect, la considération et favorise notre promotion. La promotion améliore nos revenus. Les revenus améliorent notre qualité de vie. Et la qualité de notre vie développe en nous le sentiment d'assurance et de satisfaction totale. Faut travailler. Et on doit aimer le monde. Dieu vous bénisse.
En espérant que ce message vous a été en bénédiction, nous vous encourageons à vous procurer les catalogues de nos productions audiovisuelles au numéro suivant 00 241 07 29 68 47 et au 00 241 07 39 82 79 ou à l'adresse email suivante missionjcr@yahoo.fr. Merci et que Dieu vous bénisse.